Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 28 février 2025. En direct de Washington, Rosine Mounezero. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, un député d'opposition proche de l'ex-président Macky Sall a été inculpé et écroué jeudi à Dakar. Au Soudan, au moins 70 personnes sont mortes du choléra et plus de 2200 ont été contaminées par la maladie dans le sud du pays. Israël a annoncé jeudi qu'il envoyait des négociateurs au Caire pour des discussions visant à prolonger la première phase du cessez-le-feu qui expire dans 2 jours. Le président Donald Trump a reçu hier jeudi le premier ministre britannique Keir Starmer, porteur d'une rare invitation du roi Charles. Et dans l'autre partie magazine, bras de fer entre le pouvoir et l'opposition autour du mandat du président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo.
Le bureau de l'Assemblée est l'objet, il y a 2 bureaux qui font compétition, un bureau pro-présidentiel et un bureau pro-opposition. Le président a visiblement une relation assez étroite avec les forces armées.
Ne manquez pas notre page au sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Un député d'opposition sénégalais proche de l'ex-président Macky Sall a été inculpé et écroué jeudi à Dakar pour blanchiment, escroquerie sur les deniers publics et association de malfaiteurs, a indiqué l'un de ses avocats. Les précisions avec Dili Diko.
Mouhamadou Ngom, dit Farba, également maire d'une commune dans le nord du Sénégal, a été entendu par le juge du pool judiciaire financier, PJF, un organe anticorruption, qu'il a écroué, a déclaré maître Doudou Ndoye. Il a été placé sous mandat à la très grande surprise de ses avocats scandalisés par la procédure qui ne correspond à aucune des règles du droit sénégalais, a fustigé maître Ndoye. L'Assemblée nationale, saisie par le PJF, a, le 24 janvier, levé l'immunité parlementaire de Maître Ngom pour qu'il soit entendu par la justice après des soupçons sur son implication présumée dans des irrégularités. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le biais de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée à plus de 125 milliards de francs CFA, a affirmé le parquet du PJF le 12 janvier. L'entourage du député dénonce l'exécution d'une commande politique par la justice.
Toujours au Sénégal, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé jeudi les syndicats à mettre de côté pendant un temps les grèves pour permettre au gouvernement de redresser la situation financière difficile du pays et de prendre en charge leurs revendications lors d'une rencontre pour apaiser le climat social tendu. Les nouvelles autorités, élues en mars 2024, en prenant un agenda de rupture, font face depuis plusieurs semaines à un climat social tendu marqué par des contestations des centrales syndicales qui menaçaient ces dernières semaines de décréter une grève générale. En République démocratique du Congo, au moins 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans 2 explosions ce jeudi lors d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu. Le président Félix Tshisekedi a condamné un acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour ce meeting du M23 sur la place de l'indépendance de la capitale de la province du Sud Kivu, contrôlée par ce groupe rebelle depuis le 16 février. Le leader du groupe rebelle, Corneille Nanga, a quitté la tribune au moment de la première explosion. Le M23, qui a repris les armes en 2021, s'est emparé de Bukavu 2 semaines après la prise de Goma, capitale du Nord Kivu, le 30 janvier. Au Soudan, au moins 70 personnes sont mortes du choléra et plus de 2200 ont été contaminées par la maladie dans le sud du pays la semaine dernière. L'annonce est faite par l'ONG Save the Children, citant des données du ministère de la Santé. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Save the Children a déclaré que le ministère de la Santé du Soudan parle d'une moyenne d'environ 400 cas de choléra par jour à Kosti. L'épidémie de choléra dans l'état du Nil Blanc fait suite à une frappe de drone sur la centrale électrique d'Oum d'Abakar, à 275 km de Khartoum, qui a perturbé l'accès à l'eau potable à Kotsti, la capitale de l'état. Elle intervient alors que le système de santé soudanais est paralysé par la guerre civile. Les enfants du Soudan sont pris dans un cycle sans fin de violence, de maladie et de faim, avec un impact dévastateur, a prévenu Mohamed Abdilatif, directeur de Save the Children pour le Soudan. Selon un communiqué du ministère de la Santé publié mardi, le pays a enregistré plus de 55 000 cas de choléra et plus de 1 400 décès depuis que l'épidémie a été déclarée en août 2024.
Une montée de tensions dans le nord du Soudan du Sud pourrait mener à une violence généralisée, ont averti jeudi plusieurs organisations multilatérales et non gouvernementales appelant à la désescalade. Des combats ont éclaté les 14 et 15 février entre l'armée sud-soudanaise et des jeunes armées dans le comté Nasir de l'état du Haut-Nil bordant le Soudan, qui ont tué des civils et blessé un casque bleu, avait indiqué la mission des Nations Unies dans le pays la semaine dernière. La situation a été aggravée par la rotation en cours des forces à Nasir, précisent les organisations qui appellent les parties à la désescalade.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a annoncé jeudi qu'il envoyait des négociateurs au Caire pour des discussions visant à prolonger la première phase du cessez-le-feu qui doit expirer dans 2 jours dans le but apparent d'obtenir la libération d'autres otages tout en retardant tout accord final sur l'avenir de Gaza. Alexandrine Colognon.
L'annonce a été faite après que le Hamas a remis 4 corps d'otages, les derniers qui devaient être libérés, selon les termes de la première phase de 6 semaines du cessez-le-feu qui a débuté le 19 janvier. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré à la presse à Jérusalem que la délégation se rendrait en Égypte pour voir s'il existe un terrain d'entente pour négocier une prolongation de la trêve. Nous avons dit que nous étions prêts à prolonger le cadre de la trêve en échange de la libération d'un plus grand nombre d'otages. Si c'est possible, nous le ferons, a précisé Gideon Saar. Les pourparlers n'ont pas encore commencé sur une deuxième phase qui aboutirait à une fin permanente de la guerre. Les belligérants n'ont pas précisé ce qui se passerait après samedi si la première phase du cessez-le-feu expirait sans qu'aucun accord n'ait été conclu. L'Égypte et le Qatar assurent la médiation entre Israël et le Hamas avec le soutien des États-Unis.
Le président Donald Trump a reçu hier jeudi le premier ministre britannique Keir Starmer, porteur d'une rare invitation du roi Charles. Mais le chef de la Maison-Blanche n'a rien promis en termes de garantie sur la paix en Ukraine. À Istanbul, des pourparlers ont débuté hier matin entre Russes et Américains. Le point avec Eric Manilakis.
Monsieur Starmer a souligné que sans dispositif robuste prévu dès le départ, rien n'empêcherait le président russe de violer un cessez-le-feu. Le président américain a estimé que des progrès significatifs avaient été réalisés sur l'accord visant à mettre fin aux hostilités en Ukraine, tout en précisant qu'aucun accord n'avait encore été conclu, rendant prématurée toute discussion sur le maintien de la paix. Donald Trump, qui a entamé un rapprochement avec le Kremlin, s'est au contraire dit convaincu que Vladimir Poutine tiendrait parole en cas de cessation des hostilités. Pour sa part, le dirigeant travailliste a estimé mercredi qu'une paix durable nécessitait un mécanisme de dissuasion efficace contre Poutine, achetant que le Royaume-Uni assumerait son rôle aux côtés d'autres partenaires, tout en soulignant l'importance d'un soutien américain en guise de filet de sécurité. La France et le Royaume-Uni voudraient que Washington apporte à leurs troupes un soutien particulièrement sous forme d'appui aérien. Lundi, le président français était venu à Washington avec un message assez semblable à celui du premier ministre britannique. Donald Trump a confirmé qu'il recevrait bien le président ukrainien ce vendredi pour signer un accord d'accès aux minerais ukrainiens présenté par Donald Trump comme une compensation des dépenses engagées par les États-Unis pour soutenir Kiev.
5 anciens ministres américains de la Défense s'inquiètent d'une politisation de l'armée par le président Donald Trump après le limogeage de plusieurs chefs militaires et exhortent le Congrès à intervenir dans une lettre ouverte publiée jeudi. Nous écrivons pour exhorter le Congrès des États-Unis à demander à M. Trump de rendre des comptes pour ses actions inconsidérées et exercer ses responsabilités constitutionnelles, explique-t-il, demandant aux parlementaires d'organiser des auditions pour obtenir des les explications de l'administration Trump. Le président d'une commission parlementaire américaine veut que 8 grandes entreprises technologiques rendent des comptes sur de possibles tentatives de censure de la part de gouvernements étrangers, 2 semaines après un discours du vice-président des États-Unis sur le recul de la liberté d'expression en Europe, Jim Jordan, qui dirige la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a envoyé mercredi des citations à comparaître aux dirigeants d'Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, TikTok, X et Rumble, plateforme de vidéo. L'élu exige que de ces entreprises qu'elles fournissent des informations sur leur communication avec des gouvernements étrangers. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le ministère du Commerce du Togo a lancé un atelier de formation de 3 jours pour les PME et PMI afin d'améliorer leurs compétences en e-commerce. Une 30aine de chefs d'entreprise participent à cette session qui couvre des aspects pratiques du commerce électronique, notamment la vente en ligne, la gestion des paiements numériques et la logistique. L'objectif est de fournir aux entrepreneurs des stratégies efficaces pour renforcer leur présence sur les plateformes de e-commerce et accroître leur compétitivité. Les perspectives économiques à moyen terme de la Mauritanie sont positives, avec une croissance prévue de 7,6% en 2025-2026, selon la BAD. Le démarrage de la production de gaz au second semestre 2025 stimulera cette croissance, offrant également une marge budgétaire pour financer les projets de développement et soutenir les réformes sociales. Pour terminer, le Kenya prévoit de réduire son déficit budgétaire pour l'année fiscale 2025, tout en essayant de préserver les dépenses qui soutiennent la croissance, a déclaré le ministère des Finances. Le déficit se réduira à 3,9% du PIB contre 4,9% pour l'exercice en cours, a indiqué le ministère. Pour couvrir le déficit, le gouvernement va mobiliser 326 milliards de shillings en financement extérieur net et 377,7 milliards de shillings en emprunt intérieur net.
Place maintenant sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Début ce vendredi des matchs aller de la deuxième phase de qualification pour le prochain CAN.
Oui, 2 matchs au programme, Afrique du Sud, Égypte et Gambie-Gabon. Les Panthères locales se déplacent finalement pour affronter les Scorpions locaux à Thiès au Sénégal. Après moult tergiversations, selon Rodney Ovono, chef du service des sports de Gabon 24, joint à Libreville.
Voici ce qui se passe. L'État devait prendre en charge le transport et l'hébergement des joueurs à prime. À quelques jours de départ des Panthères à prime, aucune nouvelle du ministère des Sports. Face à cela, et à quelques heures de la rencontre entre la Gambie et le Gabon, on s'acheminait vers un forfait, parce que le Gabon étant déjà engagé, et ne pouvant pas se présenter à Thiès au Sénégal pour affronter la Gambie, on allait certainement vers un forfait. De nombreuses sources affirment effectivement que la Fédération gabonaise de football a pu du moins faire partir l'équipe pour le Sénégal.
Rodney Ovono, chef du service des sports de Gabon 24, initialement prévu pour ce mois de février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le championnat d'Afrique des Nations a été repoussé à août prochain.
Le tribunal arbitral du sport déclare que le maillot de la RS Berkane avec la carte du Sahara occidental est une violation des règles.
Les maillots de football représentant le Sahara occidental, contestés comme faisant partie du Maroc, ont violé les règles contre les messages politiques. C'est ce qu'a déclaré le tribunal arbitral du sport, qui confirme ainsi l'appel de la Fédération algérienne de football qui contestait la décision de la CAF. L'instance africaine du ballon rond avait autorisé en avril 2024 le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane à porter des maillots sur lesquels figurait la carte contestée. Le litige a débuté lorsque des joueurs berkanis se sont vus confisquer leur maillot à l'aéroport avant un match contre le club algérien de l'USM Alger. La CAF s'était rangée du côté du Maroc, ce qui a conduit l'Algérie à faire appel. La décision du tribunal arbitral du sport intervient alors que le Maroc se prépare à accueillir la CAN cette année et la Coupe du Monde de 2030.
Cyclisme pour finir avec le Tour du Rwanda.
La cinquième étape se court aujourd'hui entre Rusizi et Huye. Hier, le Français Joris Delbove de l'équipe Total Energy a enlevé la quatrième étape courue entre Rubavu et Karongi, 97 km. Delbove prendra donc le départ en jaune ce vendredi avant l'arrivée finale attendue pour ce dimanche 2 mars.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposition en Guinée-Bissau a appelé hier à la paralysie totale du pays. La journée d'hier, selon l'opposition, est le jour où le mandat du président Oumaro Sissoko Embalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. Le président a déclaré dimanche dernier que les élections présidentielles et législatives se tiendraient le 30 novembre, alors que la date de la fin de son mandat fait l'objet de contestations de la part de l'opposition. Le chef de l'opposition et ancien premier ministre, Domingo Simoes Pereira, a exigé que les partenaires de Bissau cessent après cette date de considérer le président Embalo en représentant légitime de l'État bissau-guinéen. Pour une analyse de la situation, Alexandrine Holognon a joint Vincent Fouchère, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS.
Je dois dire que c'est difficile de trouver la base légale. On a théoriquement un mandat qui est échu. Alors l'argument du président, c'est qu'il y a eu une contestation de son élection qui a pris plusieurs mois et donc que son mandat doit être prolongé jusqu'au fond à la fin de cette contestation, enfin ou à l'anniversaire de cette contestation. Sauf erreur, cette interprétation a été soutenue par l'organe qui fait office de Cour suprême en Guinée-Bissau, le Tribunal suprême de justice, mais c'est une interprétation discutable.
Donc c'est ce qui justifie le choix du mois de novembre pour les prochaines élections ?
Oui, alors plus largement, le président, il a une difficulté au fond à construire une base politique. Il a des élections devant lui. Il a rompu avec une bonne partie de ses alliés les plus importants, et il est en train d'essayer de reconstituer une alliance qui lui permettra de faire campagne et de remporter. Et sans doute que pour lui, prolonger au maximum le mandat lui donne un peu plus de temps pour se préparer. C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre. On a un système qui fonctionne sans Assemblée nationale depuis presque 2 ans. C'est le président qui avait dissous l'Assemblée nationale. Ça semble s'inscrire dans une stratégie pour au fond contrôler la vie politique à lui tout seul.
L'opposition a-t-elle une stratégie pour contester cette prolongation ?
Alors le problème, c'est qu'à Bissau, c'est assez difficile. Les tentatives de contestation, comme je le disais, le président contrôle visiblement assez bien la Cour constitutionnelle. L'Assemblée n'existe plus. Le bureau de l'Assemblée est l'objet. Il y a 2 bureaux qui se font compétition, un bureau pro-présidentiel et un bureau pro-opposition. Le président a visiblement une relation assez étroite avec les forces armées. Il n'y a pas une grande tradition à Bissau de manifestations politiques. La répression fonctionne assez bien, les mobilisations sont assez limitées. C'est très difficile pour l'opposition de savoir par où passer tant qu'on n'utilise pas des moyens illégaux qui ont quand même une histoire en Guinée-Bissau.
Il y a eu une mission de la CEDEAO dans le pays pour rencontrer les différentes parties. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO peut servir de médiation dans cette situation et peut arriver à un résultat ?
Alors la CEDEAO est au fond plus ou moins propriétaire, si l'on veut, de la crise politique en Guinée-Bissau depuis 2012, depuis le coup d'État de 2012. Elle a eu du mal à s'imposer fortement. Elle a une petite force à Bissau qui est revenue, qui protège les institutions théoriquement. Mais au fond, on l'a pas vraiment vu imposer des compromis ces derniers temps. Certains pays de la CEDEAO, notamment le Sénégal, ont une proximité historique avec le président Embalo. Il y a beaucoup de scepticisme. En tout cas, l'opposition est extrêmement sceptique et elle a quelques raisons de l'être sur la capacité de la CEDEAO à pousser les choses.
Vincent Fouchère, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CNRS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Côte d'Ivoire, des milliers d'habitants des quartiers populaires d'Abidjan ont vu leurs maisons et commerces rasés par des bulldozers dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à éradiquer le désordre urbain. Cette politique, pleinement assumée par les autorités, a pour objectif de lutter contre la désorganisation et l'insalubrité qui affectent la ville. Cependant, pour de nombreuses personnes contraintes de quitter leur logement, les solutions et alternatives de relogement restent limitées, voire inexistantes. Davantage avec Nani Talani.
Quartier bouclé, pelleteuse en action dès l'aube et pluie de lacrymogène ont accompagné les opérations du district et les biens de milliers de familles ont été ensevelis en quelques minutes sous les gravats. Berthe Nyongon Abba a été réveillée par le bruit des pelleteuses qui attaquaient sa maison dans son quartier de Banco 1, au nord de la ville.
Ils ont effacé tout, jusqu'à ma pièce d'identité. Tout, voyez, ils ne m'ont pas laissé le temps de prendre quelque chose.
À Abattoir, il ne reste rien de ce quartier populaire et cosmopolite, coincé entre une tannerie à ciel ouvert, un parc à bétail bondé et la lagune ébriée. Les familles affectées vivent dans des conditions parfois difficiles à décrire. Certains n'ont pas les moyens de retrouver un logement.
Je dors ici. Les nuits, il y a de la pluie là, voilà. J'ai fabriqué table là, j'ai dors là.
Syriac Chenou, ancien notable du chef de village de Banco 1, a aussi perdu sa source de revenus.
Dans le temps, j'avais des revenus mensuels. Bon, malheureusement, il n'y a plus rien. Donc du coup, je me suis retrouvé ici et puis fait un peu de champ de manioc qu'au moins, en un an, si j'ai pu recueillir un peu d'argent, n'est-ce pas, pour subvenir à mes besoins.
Bien que les opérations aient été suspendues fin novembre, la question du relogement se pose toujours. Les expulsés appellent à l'aide les autorités. Le Conseil national des droits de l'homme a accusé les autorités de mener des démolitions au mépris des droits fondamentaux et sans concertation.
Les listes qui ont servi de base au paiement de l'indemnité de relogement ont été frauduleuses et des témoignages ont été rendus par les déguerpis eux-mêmes. Il y a eu deux communes. Au niveau d'Atekoubé, les déguerpis ont reconnu sur les listes des membres du personnel de la mairie d'Atekoubé, parce que c'est la mairie d'Atekoubé qui s'en occupait, ils ont reconnu sur les listes des noms des personnes travaillant à la mairie d'Atekoubé.
La campagne de déguerpissement visait initialement à détruire les quartiers situés dans des zones à risque afin de prévenir les glissements de terrain et inondations responsables chaque année des dizaines de morts durant la saison des pluies. Maintenant, sur les sites dévastés comme Abattoir, le district d'Abidjan prévoit de nouveaux projets. Ils incluent une zone économique, des habitations au standing, ainsi que des espaces de restauration, de jeux pour enfants et récréatifs. À Abattoir, le gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo a affirmé qu'un recensement biométrique avait été effectué, mais les riverains contestent cette information. Amnesty a critiqué l'usage excessif de la force et l'absence de compensation, soulignant qu'il est essentiel que toutes les victimes reçoivent une indemnisation. Seulement une partie des victimes des quartiers Guesco et Bribana ont perçu des indemnités de 250 000 francs CFA, représentant moins de 10% des personnes touchées.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Kenya, de plus en plus de personnes utilisent les médias sociaux pour s'informer. Le changement numérique modifie le paysage médiatique avec des startups comme Tuko qui émergent en tant que leader de l'information rapide pour le jeune public. Victoria Amunga a rencontré l'équipe pour savoir comment elle concilie le journalisme responsable avec les besoins de l'ère numérique. Récit Lionel Gahima.
Dans une salle de rédaction animée de la capitale du Kenya, Nairobi, les journalistes du groupe de médias numériques Tuko mettent leurs compétences à profit. Tuko, qui signifie « nous sommes » en swahili, a été créé en 2015 et compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs de la plateforme chaque mois. Walter Masolo Mambonga dirige le département éditorial de Tuko, chargé de l'actualité politique. 57 jeunes journalistes y travaillent. Selon ce jeune homme de 29 ans, la rapidité avec laquelle l'équipe produit du contenu aide le média à prospérer et à se démarquer des médias traditionnels. Walter Masolo Mabonga, journaliste de Tuko.
Il est très rapide en termes d'approbation des articles et de publication. Il n'y a pas beaucoup de bureaucratie comme dans les grands médias publics où il y a beaucoup de contrôle.
Tuko s'inscrit dans le cadre d'un changement numérique plus large. Un rapport de l'Institut Reuters sur l'actualité numérique révèle qu'au Kenya, 89% des informations sont désormais consommées en ligne. Ce sont les médias sociaux qui ont connu la plus forte progression puisque 77% des personnes s'informent désormais via ces plateformes. Le personnel de Tuko affirme que le public fait confiance à son média. Ruby Orimba est responsable de relations publiques à Tuko.
Nous interagissons toujours sur les médias sociaux et nous avons une équipe solide qui surveille en permanence ce qui se passe. Tout en écoutant les Kenyans et en leur offrant cette plateforme, nous procédons également à de nombreuses vérifications afin que l'article ne soit pas simplement un article à sensation, mais un article fondé sur des faits.
Les faits sont importants dans le cadre de l'évolution vers les informations numériques rapides. Selon le Centre international pour les journalistes, les médias sociaux ont permis à la désinformation de se propager plus rapidement et plus largement. Mais les autorités kényanes estiment qu'il est difficile de réglementer les plateformes numériques. Le Conseil de médias du Kenya, un organisme gouvernemental, affirme qu'il peut être difficile de savoir qui gère un site. Dina Ondari est responsable de la recherche et du suivi du Conseil de médias du Kenya.
Il y a des plateformes qui se sont multipliées. Pour certaines d'entre elles, leur propriété ne peut même pas être établie en raison de la nature des médias numériques. Par conséquent, il devient difficile pour les régulateurs d'identifier qui se cache derrière cette plateforme.
À mesure que les médias numériques se développent, les jeunes journalistes voient se multiplier les opportunités d'emploi dans un secteur très concurrentiel, affirme le responsable du groupe de médias numériques d'Afrique, Africa Digital Media Group. Mukuwi Mbindo est responsable des partenariats au sein de l'Afrique Digital Media Group.
Quelqu'un qui aurait eu besoin de toute une équipe de journalistes pour pouvoir sortir et raconter une histoire peut maintenant le faire avec son téléphone. Même pour la rédaction d'un article, il existe de nouveaux outils et logiciels qui permettent de rédiger des articles. Il y a même une prolifération de l'IA.
Les experts des médias estiment que la combinaison des normes des médias traditionnels et des nouveaux outils numériques contribuera à la pérennité des médias kényans.
Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des maladies rares. Les maladies rares sont celles qui ne touchent pas plus d'une personne sur 2000. On en compte entre 5000 et 8000 dans le monde. Pour en parler, Antoine Roger Bolamba a joint ici à Washington le docteur Pierre Diomi de Valley Patient Care de Virginie, ici aux États-Unis.
Le mot-clé ici, c'est rare. C'est des maladies qu'on ne trouve pas souvent. Et puis, c'est des maladies qui sont parfois difficiles à diagnostiquer et puis à traiter. Une maladie qui me vient en tête comme ça rapidement, c'est le Parkinson. C'est une maladie qui affecte le système nerveux, au cerveau. Et puis ça affecte les mouvements de ses patients. Donc il n'arrive pas à bouger, à marcher. Et puis un patient célèbre qu'on peut penser qui a souffert de cette maladie, c'est par exemple le fameux boxeur Mohamed Ali. Mohamed Ali, oui, il souffrait du Parkinson et puis il est mort des complications de cette maladie-là. Mais c'est une maladie qu'on désigne qui est neurodégénérative. Avec le temps, progressivement, on perd la densité des coins neurones dans une partie du nerveau qu'on appelle le substantia nigra, c'est cette partie-là qui nous aide à produire la dopamine, qui nous aide à faciliter nos mouvements. Parce que arrivé à une certaine dose avec le patient, quand la dose est assez élevée, on voit des effets secondaires au lieu des bénéfices du médicament.
Avez-vous une idée, docteur, par rapport à la situation de ces maladies rares en Afrique?
Bon, il y en a, parce que c'est des maladies rares et puis l'épidémiologie et puis ça, je ne sais pas vous dire, mais il y en a en Afrique, mais c'est ça dépend peut-être avec des universités locales. Hein. Ils auront peut-être des chiffres assez comme on dit, précis, les nombres qu'ils ont. Mais si, par exemple, on va dans les départements de neurologie aux cliniques universitaires, ils vont vous dire que voilà, il y a un tas de patients que voilà, on voit chaque année qui viennent se faire traiter par rapport à cette maladie.
Le docteur Pierre Diomi de Valley Patient Care de Virginie, ici aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.